propose, si vous voulez bien, de répondre à quelques questions, s'il y en a. Et s'il y a des questions, je vous demanderai de bien vouloir lever la main et je vous accorderai la parole chacun à votre tour. Et comme le micro n'est pas un micro baladeur, je vous demanderai de bien vouloir vous lever et de parler distinctement pour que tout le monde vous entende bien. Monsieur, vous avez la parole.
Oui.
Si vous voulez bien vous lever.
Ça se mélange un petit peu, je vais peut-être y attendre un peu décanté. Ça fait un peu deux questions qui essaient de les articuler. J'avais l'impression, à un certain sens, que vous exprimiez une lutte idéologique contre la neutralité de la sphère publique, de la voie de l'offre de la demande, enfin, toute une série de mécanismes qui sont une revendication de neutralité, qui est un peu un moyen de masquer des rapports de force. C'est un peu ça, dans un sens, que je comprenais. Et je me demandais votre rapport, qu'est-ce que vous pensez de valoriser le fait que non, ces espaces publics ne sont pas neutres, à savoir les prix, ou également les mécanismes monétaires. La fin des accords de Bretton Woods, c'est aussi une façon de dire non, c'est neutre, la façon de fluctuer des monnaies, de laisser faire au marché. Peut-être l'importance, la force des marchés qu'on estime de façon neutre, et peut-être une, enfin, voilà, une lutte idéologique à dire ce n'est pas neutre. Et là, on sent du coup, enfin, ce que j'entends, c'est un peu un, je sais pas si je vais exprimer, une conséquence de la révolution nominaliste aussi. Au sens de dire, voilà, en plus c'est la fin des raisonnements aristotéliciens, théologiques, c'est-à-dire que la fin est importante, et que, du coup on a une vision mécaniciste. Donc là, il y a vraiment une lutte idéologique à ce moment-là. Et du coup, il y a aussi quelque chose, vous parliez de petits coupons. Qu'est-ce que vous pensez pour des formes de neutre, enfin, de lutter contre la neutralité, par exemple, de la monnaie, et des monnaies locales complémentaires, donc, à côté de pouvoir structurer de façon institutionnelle l'euro, et d'aller finir ce projet-là, dire que pour la résilience, qui est, par exemple, nous, enfin, voilà, on peut aussi envisager des mécanismes de revenus universels en monnaie locale. Et voilà ce que vous pensez de ces formes de coupons, au final, qui sont régulées par des citoyens, des organisations autogérées, et qui viennent un peu aller dans ce sens de lutter idéologiquement contre la neutralité de certaines institutions, dont celle de la monnaie. Donc voilà, c'est un petit peu un mélange, voilà, de lutte idéologique dans cette non-neutralité pour qui masque les rapports de force.
Oui.
Ah oui, si, parce que ce que vous appelez neutralité, moi j'ai fait allusion en employant des termes un peu différents, en disant cette idée de l'objectivité du prix en tant que tel. Tout ça, ça justifie aussi, et c'est très intéressant, pourquoi au niveau européen, pourquoi faut-il pour certains types de décisions une majorité des deux tiers et pour d'autres décisions l'unanimité? Parce que quand on regarde, on a vraiment l'impression d'un complot. On se dit, pour tout ce qui est des mesures de type de mesures d'inspiration de gauche, il faut l'unanimité, alors que pour toutes les mesures d'inspiration de droite, il suffit d'avoir une majorité de deux tiers, ce qui crée une sorte de système à cliquer. Et donc on peut toujours très facilement pousser encore un peu plus vers la droite et on ne peut jamais pousser vers la gauche. Et où est la justification de ça? Elle est dans cette science économique qui a été... Il y a des prix Nobel qui vous expliqueront pourquoi c'est comme ça, parce qu'ils vont dire exactement comme vous dites avec le terme neutralité. Oui, mais c'est parce que sur les trucs à deux où il faut deux tiers, c'est des trucs purement techniques. Comme, voilà, comme le fait que les salaires sont des coûts, ben c'est purement technique, c'est simplement une règle comptable. C'est ce qu'on appelle évidemment une entreprise idéologique. C'est de cacher... C'est de cacher la réalité sous des mots qui vous disent « Ah oui, mais non, mais ça c'est... » Oui, mais c'est parce que votre décision à vous, ce que vous demandez, ça c'est d'ordre politique, de remettre en place, par exemple, voilà, l'interdiction de la spéculation, ça c'est politique. Alors, je dis non, c'est purement technique, on a un article qui a été abrogé en 1867 et on le remet là, etc. Il faut déconstruire ce discours qui vous dit toujours « Oui, mais ce que vous dites, c'est politique, et ce que moi je dis, c'est un truc purement technique. » C'est une astuce, c'est un truc, ça fait partie de ce que Gramsci appelle la domination sur l'idéologie, de définir le sens des mots. Orwell parle ça dans 1984, hein, on appelle toutes les choses comme leur contraire, et comme par exemple en France en ce moment, restriction du droit de manifester, protection du manifestant contre, voilà, etc. Il faut dénoncer évidemment ça chaque fois que ça se... Ou alors dans les gares, voilà, maintenant vous êtes télévisé, c'est pas pour vous surveiller, c'est pour vous protéger contre les gens qui... et ainsi de suite. Je crois qu'il n'y a pas d'autre choix que de dénoncer ça, de montrer la mystification. de dire ces règles comptables ne sont pas neutres. Pourquoi est-ce qu'il fallait créer la société dans l'état de Delaware si c'était un truc neutre, hein? Pourquoi on ne pouvait pas la mettre à Bruxelles ou à Namur? Non, voilà. Mais évidemment, ce n'est pas facile parce que tout ça a été inscrit. D'une certaine manière, c'est le fait qu'il y ait des entrées. On dit néolibéralisme, etc., à partir de 1970, avec Reagan et avec Thatcher. Mais il y a aussi des choses plus complexes. Le fait que des entreprises soient devenues aussi riches que des États et qui obligent à ce que ces deux systèmes diplomatiques, corps diplomatiques, interagissent. Et qui oblige d'une certaine manière les États à parler dans les termes qu'imposent les entreprises. Et quand on remonte un peu plus haut, la création des lobbies à Bruxelles, il y a un très bon bouquin fait par un Français là-dessus. Pourquoi est-ce que ces lobbies se sont créés à Bruxelles, et ça date d'avant l'Union européenne, ça date du Benelux, de la CECA, du marché commun à 6 et tout ça. La raison, on ne la connaît pas d'habitude, c'est parce que ces Américains qui nous donnent des milliards pour reconstruire chez nous, ils ne demandent qu'une seule chose, c'est qu'on prouve que ça ne passe pas la corruption. Bon. Et on leur dit, oui, comment on va faire la preuve de ça? Et ils nous donnent leur système comptable. Et ils demandent à tous les pays qui reçoivent des trucs de le faire dans ces termes-là. Et quand on crée l'Europe, bien sûr, on part à partir de là, parce qu'on a déjà un langage commun. Et ce langage commun, c'est qui l'a écrit au départ? C'est dans les années 30, c'est la Chambre de commerce des États-Unis. Et donc, on a, nous, l'empreinte de la Chambre de commerce des États-Unis, sans même jamais y avoir réfléchi, parce que ça nous est venu comme des trucs purement techniques. C'est la même chose. Là, de nous dire l'argent est neutre, tout ça est neutre, et tout ça, c'est des mesures techniques, c'est dire la même chose. C'est dire, oui, vos idées sont révolutionnaires et contestataires, etc. Et la dure réalité, c'est autrement. Il y a un autre signe de ça, et ça, c'est très intéressant. C'est un livre de 1909. Charles Gilles et Charles Rist, histoire de la pensée économique jusqu'à cette époque-là. Et il parle donc de ce passage qui existe entre ce qu'on appelait l'économie politique, qui était le discours sur l'économie, quand je dis François Quesnay ou Adam Smith, voilà, c'était l'économie politique, et ce qu'on commence à appeler la science économique. Et donc cette science économique s'est créée en 1870 par ces trois bons hommes dont je vous ai donné le nom, Jevons, Menger et Walras. Et là, on est 75 plus, 25 plus, on est 34 ans plus tard quand Rist et Gide écrivent le livre. C'est d'ailleurs l'oncle du fameux André Gide, bien connu. Comment est-ce qu'on reconnaît si on est encore dans l'économie politique ou si on est déjà dans la science économique? Il dit, c'est très simple. Regardez s'il y a un chapitre sur la propriété privée et sur les conflits entre classes sociales. S'il n'y a plus de chapitre sur la propriété, on est dans la science économique. Pourquoi est-ce que ça a disparu? Parce que c'est considéré, la propriété privée est considérée par la science économique comme un fait d'ordre naturel. Les biologistes peuvent parler de ça. Pourquoi l'homme a une tendance naturelle à la propriété? Dans les livres d'économie politique, non, on vous parle des formes de propriété, des conflits sacrés, etc., etc. Même chose pour les rapports entre classes. Quand vous regardez le livre de François Quesnay, Portrait économique de la France, 1776, vous voyez dans les flèches, d'où je disais la première fois qu'il y a des diagrammes, vraiment des flèches, classe oisive et classe laborieuse. Qu'est-ce que ça suggère? Ben, qu'il y a de la richesse qui circule là, qui ne va pas nécessairement au bon endroit. Et je vous dis, moi, il n'était même pas économiste, c'était le médecin de la famille royale. Mais il découvre ça avec son œil. C'est 1756, on est 20 ans avant la richesse des nations d'Adam Smith. On n'est pas encore du tout dans le même environnement. C'est un naïf, il y a des classes sociales, et puis après, quand Karl Marx écrit le Capital, il sous-titre ça une critique de l'économie politique, mais c'est un des grands théoriciens, bien entendu, de l'économie politique. Et quand il a, en 1848, quand avec son compère Engels, il fait un petit livre qui s'appelle Manifeste du Parti communiste, ou Manifeste communiste, il dit, première phrase du premier chapitre, l'histoire humaine est l'histoire de la lutte des classes. Bon. Alors, quand on est dans la science politique, ça a disparu non, aussi. Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de lutte des classes dans les livres d'économie? Eh bien, parce que c'est une erreur d'interprétation. L'idée qu'il y a des luttes de classe, c'est le ressentiment de personnes qui ne comprennent pas, par exemple, qui ne comprennent pas que la propriété privée, c'est purement naturel et que ça n'a rien à voir avec des lois arbitraires. Nous sommes tous pareils, nous sommes consommateurs. Le type qui est propriétaire de trois usines et le mendiant au bord de la rue qui tape dans la main, nous sommes tous consommateurs. On va défendre à partir de là un discours qui est le discours qui explique les consommateurs et tous les consommateurs, qu'il s'agisse du mendiant ou qu'il s'agisse des régions d'entreprise, essayent voilà, d'optimiser l'utilisation de ressources rares en fonction. Elles sont très très rares dans le cas du mendiant, beaucoup moins dans le cas de l'autre, mais bon, voilà. Donc voilà, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise idéologique. Le danger, la grande tristesse autour de ça, c'est que pendant tout ce temps-là qu'on a créé la science économique, il a été extrêmement difficile de créer un véritable discours sur l'économie. Et quand en 2008, on dit, bon, les étudiants disent, on va virer tous ces professeurs qui nous répètent les choses qui manifestement sont fausses, le fait est que s'ils l'avaient fait, eh bien, il y aurait eu des départements entièrement vides, parce qu'il n'y a pas assez de gens qui tiennent un autre discours, qui l'ont constitué ailleurs, comme anthropologues, ou comme Didier Sornet en tant que physicien, et des choses comme ça. L'environnement était entièrement saturé, et avec une entreprise, je dirais, délibérée, parce que bon, quand la société du Mont Pèlerin, qui est financée par des entreprises, purement et simplement financée par des entreprises suisses à la fin des années 40, décide, on va créer un prix Nobel à nous. Et si vous regardez, les prix Nobel d'économie, c'est essentiellement des membres de la société du Mont Pèlerin depuis sa constitution en 1961. C'est un petit club, mais qui a un prestige. Quand M. Tirole devient prix Nobel d'économie en France et qu'il y a une proposition de créer en dehors des facultés d'économie d'autres facultés où on parlerait d'économie, mais autrement, avec des gens comme moi et des amis à moi, eh bien, il utilise aussitôt son prestige de prix Nobel pour s'aborder le projet qui allait passer et qui, du coup, est terminé. On a en face de nous ces gens dont M. Battiston a montré qu'ils sont très puissants et très, très peu nombreux, des gens qui ont les moyens d'imposer non seulement des choses, je dirais, au niveau de la vie quotidienne, mais aussi au niveau des représentations du discours qui est tenu, etc. Ils ont saturé notre compréhension de l'économie en disant « nous, on sait comment ça marche, etc. » Et on m'a donné l'autre jour, et ça m'a particulièrement touché, c'est un livre de pure propagande par Monsieur Mistral, un livre de pure propagande en faveur de la science économique telle qu'elle existe. Pourquoi ça m'attriste? C'est parce que c'est publié dans la Bibliothèque des sciences humaines chez Gallimard, qui n'était pas une entreprise de propagande, qui était une collection respectable de... Il y en a peut-être un là, oui, non. Comment la vérité et la réalité furent inventées. Non, il n'est pas là. Enfin, bon, moi, je l'avais publié en 2009 dans cette collection-là, à l'époque où elle était respectable, à mon sens.
Monsieur avec le pull rouge, s'il vous plaît. Oui. Oui, parce que je ne pourrais plus donner la parole à vous.
Mais demandez aux gens de poser des questions moins intelligentes et je pourrais.
Oui. Voyez-vous, je sais que vous avez publié un ouvrage avec Bruno Coleman. Or, il se trouve que, beaucoup d'entre nous, peut-être ici, se déplaçaient dans les universités pour chahuter ce monsieur qui se présentait carrément comme le pape du marché. Il y a manifestement eu pape du marché que vous n'êtes certainement pas. Alors, est-ce que vous pourriez nous éclairer un peu sur la démarche qui nous a permis à tous deux de vous rejoindre?
Oui. Eh bien, c'est très simple. Je me suis un peu déplacé de 0,05% en sa direction et lui de 99% dans la mienne. Mais je peux vous dire ça parce qu'il dirait la même chose. Bon, donc ça, c'est formidable. Il est en très bon terme maintenant avec M. Paul Magnette, hein, puisqu'il donne cours ensemble, je ne sais plus où, c'est ici, c'est à Namur ou c'est à Mons, voilà. Non, le fait est que, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'avais des très mauvais rapports avec monsieur Coleman. La première fois qu'on s'est vu, je crois qu'il a même refusé de me donner la main. C'était dans le cadre de la bourse dont il était encore le directeur. La fois suivante, ça, c'était, je dois le mentionner, c'était une émission de radio. Moi, j'étais en France et ça se passait sur la RTBF. Mais en face de moi, il y avait monsieur de Calataille et monsieur Coleman. Et j'ai reçu, après l'émission, un petit mot d'excuse de Bruno Coleman. Voilà. Il m'a dit, je m'excuse de la manière dont la discussion a eu. C'était unfair, comment dit-on, injuste envers vous. Je lui dis, vous êtes très gentil, monsieur Coleman, mais le reproche auquel vous faites allusion, c'était à 90% monsieur de Calataille qui s'était mal conduit envers moi. Je suis en bon terme avec lui maintenant aussi. Mais il s'est fait la chose suivante, c'est que j'ai fait un livre sur Keynes. J'ai fait un livre sur Keynes, il s'appelle « Penser l'économie avec Keynes ». Et là, c'est un livre très différent sur Keynes par rapport aux autres, parce que ce n'est pas un livre écrit par un économiste qui soit contre ou pour Keynes, c'est autre chose. Et là, Coleman l'a lu, et ça a été une sorte de révélation pour lui. Il a commencé à lire Keynes, sérieusement, enfin il savait qui c'était, bien entendu. Il a commencé même à lire Marx, après avoir lu Keynes. Et les positions, vous le savez, maintenant de Coleman sont des positions, je dirais, de centre-gauche. C'est plus du tout les positions, je dirais, de libéralisme, d'ultra-libéralisme, qui étaient les siennes auparavant. Ce qui s'est passé, pourquoi nous avons fait ce livre ensemble, c'est parce que Marc Lambertz, qui à l'époque était rédacteur en chef ou adjoint de l'Écho, lui avait proposé de faire un livre de dialogue, qui soit un dialogue. Il a demandé à Coleman avec qui le faire. Et là, donc, Coleman, à une époque où je le connaissais à peine, a dit bah, il faut que je le fasse avec Jorion. Et donc, ça devait être peu de temps après qu'il ait lu mon livre sur Keynes. C'est sans doute ça qui avait motivé sa réaction. Non, il a beaucoup réfléchi. C'est un des rares économistes qui dit qu'on va vers une nationalisation totale de la finance parce qu'on ne peut pas faire. Il tient un discours, on a eu fait un débat ensemble, c'était au début de cette semaine, et il m'avait frappé par le fait qu'il a, sur certains points de finance, il a des positions plus radicales que moi maintenant, effectivement.
Monsieur, oui.
Moi, j'ai deux petites questions. Hein. À propos de Bruno Coleman et Jacques Attali, annonce une crise mondiale dans les deux ans à venir, beaucoup plus importante que celle de 2008. Et la deuxième question, vous avez déjà certainement entendu parler du groupe Bilderberg.
Oui.
Ce que vous en savez et ce que vous en pensez.
Oui.
Puisque vous parliez au début de votre conférence de 48 sociétés qui dirigeaient le monde.
Oui.
Et je pense que ce groupe est, qui aime le mystère et
ne oui.
peut pas se montrer. Je voudrais bien savoir ce que vous en pensez.
Oui.
Sur le fait qu'il y ait crise mondiale, oui, bien entendu. Ce qui fait qu'il y avait peu de gens qui ont prévu la crise des subprimes, c'est parce qu'il fallait transcender un grand nombre de limites qui étaient considérées comme naturelles dans la manière d'envisager des choses. Il fallait d'abord ne pas faire attention à la distinction entre finance et économie, c'est la première chose. En économie, il ne fallait pas s'intéresser à la distinction entre microéconomie et macroéconomie. À l'intérieur même de l'économie, il fallait dire qu'il y avait peut-être un rapport entre le prêt immobilier et les bourses, bon. Et la manière dont la bourse évolue. Alors, pourquoi est-ce que moi je savais, par exemple, qu'il y avait un rapport entre la bourse et le marché immobilier? C'est parce qu'on m'avait demandé, et ce n'était pas une idée à moi, mais dans la firme où je travaillais, on m'avait dit, tiens, on va calculer les taux d'intérêt qu'on va demander aux gens en tenant compte du prix sur lequel circulent à la bourse les titres constitués à partir de leurs prêts agrégés. Bon, alors ça, je le savais parce que c'est moi qui l'ai fait. J'ai probablement été la première personne au monde à faire ce genre de choses, mais je savais que ça allait avoir lieu. Et donc, on était finalement très peu. Qu'est-ce qu'on a été ? On a été, à mon avis, 4 ou 5 à vraiment prévoir la crise des subprimes, non pas à dire il va y avoir une crise, mais à écrire un livre de 250 pages là-dessus avant que ça n'ait lieu. Pour le moment, le système est tellement fragilisé que vous pouvez voir, il y a des centaines de milliers de commentateurs de l'économie qui disent qu'il va y avoir une crise, et effectivement, et moi je ne vais pas me distinguer en disant non, moi je suis sûr qu'elle n'aura pas lieu. Pourquoi ? Parce que le système s'est fragilisé. On a essayé de le protéger un tout petit peu, mais par des moyens tout à fait conventionnels, en disant on va multiplier les réserves des banques par 2 ou des machins comme ça. Vous savez peut-être, j'ai fait partie du haut comité pour l'avenir du système financier en Belgique, donc je fais partie des 8 personnes où on a réfléchi quand même pendant des mois à la manière dont les choses fonctionnent de l'intérieur. Mais bon, tout ça est très 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 conventionnel, Bon, moi, en face de moi, il y avait 7 personnes qui étaient... Allez, il y avait M. Gernouls qui était un petit peu d'accord avec moi sur certains trucs, mais quand il y avait M. Luc Kuhn, ancien président de la Banque Nationale, qui est un ultra-libéral, etc., ce sont des gens qui considèrent que moi je ne comprenais pas qu'on parlait que de problèmes purement techniques et ainsi de suite. Je vais pas être trop long pour ça. Pour Bilderberg, pour ces trucs-là. Bon, moi, j'ai jamais été invité à Bilderberg, j'ai jamais été invité à Davos. Qu'est-ce qu'il y a encore ? L'autre jour, je me suis amusé à faire une petite blague. C'est qu'il y a des gens qui ont dénoncé le fait qu'on avait invité 150 intellectuels. Monsieur Macron avait invité 150 intellectuels à l'Élysée. Et donc. Et que M. Frédéric Lordon avait expliqué pourquoi il n'irait pas, etc. Et là, j'ai pas pu m'empêcher de faire une petite blague, de dire moi j'irai, et non seulement j'irai, mais je taperai du poing sur la table et j'expliquerai, etc. etc. Bon. Mais en fait, je n'avais pas été invité du tout. Et après, il y a des gens qui ont commencé à m'insulter en disant voilà du capitalisme, oui, j'aurais, on voit bien, etc. Tu inventes n'importe quoi. Et alors, la même personne m'a envoyé un mail après quand j'ai dit oui, mais c'était une blague, c'était un canular. Je lui ai envoyé d'ailleurs lui, à cette personne qui m'insultait, je lui ai envoyé mon billet avant même que je le publie. Et alors il me répond en disant « Oui, tu essaies de te rattraper, etc. Mais je ne suis pas dupe. » Non, je n'avais jamais été invité, c'était une blague. Je voulais souligner simplement qu'effectivement, on m'invite pas à des trucs comme ça. Le fait que Attali m'avait demandé d'être dans sa deuxième commission sur l'économie solidaire, c'est une fantaisie de la part d'Attali. C'est pas des choses qui se font normalement. Même chose quand j'étais dans ce groupe de 8 spécialistes d'experts sur l'avenir du secteur financier. C'est parce que Gernouls, d'une certaine manière, est un petit peu un farceur à sa manière que je me suis retrouvé là-dedans. De manière générale, on essaye d'éviter que j'aille dire ce que je vous dis à vous, parce que c'est un peu de l'ordre de l'irréfutable, c'est que je viens avec beaucoup de données, que j'ai des chiffres et ainsi de suite, qu'il n'est pas facile de détruire mon argumentation.
Oui, dans la présentation sur le net, vous parliez de que vous serez un adepte de la mécanisation totale de l'économie, de la production des biens et de la nourriture, etc. Et alors, vous ne avez pas parlé de l'intelligence artificielle. Quant à moi, de vos travaux, c'est pas trop long.
Oui, ça, c'est pas le genre de réponse.
En très condensé.
Oui, j'ai été effectivement chercheur en intelligence artificielle de 87 à 90. C'était pas ma spécialité. J'ai été abordé par quelqu'un qui m'avait entendu poser des questions dans un colloque sur l'intelligence artificielle et qui m'a demandé de venir travailler avec eux à British Telecom. C'était pas inattendu parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui avaient 10 ans de carrière dans l'intelligence artificielle. On recrutait des gens qui venaient d'ailleurs. Mais vous aviez dit une
mécanisation,
La mécanisation, oui. Moi, j'ai l'impression que, d'une certaine manière, il y a une volonté délibérée de la part de nos dirigeants de ne pas vouloir parler du fait que l'emploi disparaît de manière générale, parce que si on n'en parle pas, pour eux, ça facilite les choses. Parce qu'ils savent que le rapport de force entre la force de travail et l'ensemble des salariés va diminuer avec les années qui passent. Que le pouvoir des syndicats va encore baisser, puisqu'il y aura de plus en plus de gens en compétition pour un nombre de plus en plus restreint d'emplois, que la nouvelle révolution qui vient, ce n'est pas celle de la robotique, parce que les usines sont déjà vides d'êtres humains, voilà, depuis ça a commencé au milieu des années 80. Le remplacement des gens par des logiciels, ça a commencé par le remplacement du jour au lendemain, pratiquement, des sténodactylos par le traitement de texte. Et c'est pas, ça n'a pas été de la délocalisation. Il n'y a aucun emploi de sténodactylo en Belgique qui a été transposé en Chine ou en Indonésie, non, absolument, ou au Bangladesh. Non, ça a disparu pour moi simplement. Et ce qui apparaît maintenant, c'est que sur des choses qui nous paraissent extrêmement compliquées, comme par exemple les grands spécialistes de diagnostic, d'oncologie, de risque de cancer, etc., il y a déjà des systèmes qui réussissent mieux que les êtres humains à le faire. C'est-à-dire que et les médecins en sont conscients. Bon, mon propre médecin me dit l'autre jour, oui, le scanner et l'IRM. Voilà, je dis, qu'est-ce qui est mieux? Ah, il me dit, ben, c'est le scanner, parce qu'il n'y a pas du tout d'intervention humaine. Et ce n'est pas une blague de sa part, il est convaincu de ça. Je parle avec un grand spécialiste de la chirurgie, il se trouve que je suis à côté de lui dans un dîner, et qui me dit, ben, maintenant l'opération, c'est 80% la machine, et moi qui regarde, et puis 20% c'est moi. Et il me dit, mais vous ne vous rendez pas compte, il n'y a pas des choses qui sont petites à voir ou grandes à voir pour la machine. La machine s'en fout si c'est petit ou grand à mes yeux, à moi. Tout ça évolue de cette manière-là. Et si on va encore plus loin, et là je dis quelque chose qui... On m'a demandé d'aller demain à la RTBF pour parler de ça spécifiquement. Je dis la chose suivante, je dis que si nous nous en servons, si nous en sortons maintenant en tant qu'espèce, c'est parce qu'on aura demandé à l'intelligence artificielle de résoudre des problèmes qui sont trop compliqués pour nous, parce qu'on le voit déjà, pour le moment c'est essentiellement dans le domaine du jeu, ou bien des essais comme ça, voilà, dans un domaine diagnostic en oncologie, etc., mais ça va se généraliser. Et je pense à un truc qu'un physicien, c'était voilà, René Thom, le grand mathématicien. Grand mathématicien nous dit, nous sommes dans un monde déterministe, et s'il y a des choses qui ne nous apparaissent pas déterministes, c'est parce que nous avons le sentiment que nous sommes dans un monde à quatre dimensions, les trois dimensions de l'espace plus le temps, et ce que ça prouve, qu'il y a des choses qui nous paraissent indéterministes alors que c'est certainement déterministe, c'est parce que le véritable monde physique autour de nous a plus de dimensions que ce que celle-là. Bon. Et il y a un truc qui s'appelle théorie des corps, si j'ai bon souvenir, qui dit qu'il y a 26 dimensions. En réalité, il y en a qui sont tout à fait enroulées sur elles-mêmes, et ainsi de suite. Si on est vraiment dans un monde à plus de dimensions que celui que nous pouvons percevoir, rien n'empêche l'intelligence artificielle de mettre le monde dans le nombre de dimensions qu'il faut et de résoudre les problèmes à cette échelle-là. Il y a un certain monsieur qui s'appelle Jean-François Ganassia. Il était un chercheur en intelligence artificielle à la même époque que moi, donc à la fin des années 80. Depuis, il publie des livres régulièrement, il y en a encore un cette année-ci, disant « l'intelligence artificielle n'aura pas lieu ». Et je ne sais pas, c'est son fonds de commerce, mais ce dont on parlait en 1980, et tout ce qui s'est passé maintenant, tout ce que cette machine arrive à faire. Il y a ce truc, je vous recommence de voir ça, on me dit, regarde la manière dont la machine a gagné sur StarCraft, qui est un jeu, voilà, un jeu vidéo. C'est 3 heures, mais trouve les 3 heures. Je dis, ouais, je ne vais pas trouver 3 heures pour regarder un truc sur des jeux vidéo. Et bien, je les ai regardés. J'ai été accroché dès le début, parce que vous voyez pourquoi la machine est tellement plus intelligente que l'être humain pour ça. Elle arrive à faire des choses comme nous, on ne sait pas faire. À un moment donné, cette machine, elle divise son armée instantanément en 5 morceaux qui vont attaquer de tous les côtés. On ne sait pas faire ça. Napoléon, il arrive encore avec 2 ou 3. Mais nous, on n'a pas la capacité de faire ça, même sur le papier. On ne peut pas mobiliser l'ensemble des dimensions. Pourquoi est-ce que la machine fait le meilleur diagnostic que le médecin? Parce qu'on l'a regardé, bon, le médecin il a 8 paramètres et il fait des corrélations encore dans ces 8 paramètres, etc. avec d'autres. La machine, elle fait les corrélations avec tout. Elle prend toute l'information qui est à sa disposition. Pour prévoir la crise des subprimes, je l'ai dit, il faut transcender cette définition conventionnelle qu'on a, finance d'un côté, économie de ça. La machine avec son big data, elle s'en fiche. Elle a les données, elle va regarder, elle va trouver. Et c'est pour ça que même quand dans les jeux des échecs, les jeux de go, quand la machine commence à jouer contre nous et qu'elle a appris simplement en jouant contre elle-même, elle invente des choses que nous n'avons jamais vues. Elle va mettre aux échecs, elle va mettre sa dame dans un coin du truc. Si un gosse qui commence à prendre aux échecs, il va mettre la dame dans le coin, on lui dit « Eh non, t'as pas encore compris ». La machine, elle a trouvé que c'était une bonne stratégie. Et je crois qu'on en est là. Et donc, il y a un certain espoir de ce côté-là. Mais il faut faire... malheureusement, je veux dire, il y a des gens qui critiquent la technique, la technologie, à partir du fait que nous avons produit des choses abominables, que nous pouvons créer des bactéries maintenant et créer des épidémies tout à fait de synthèse, nous avons des bombes atomiques, etc., mais qui en font du coup un prétexte à une attaque systématique de la technologie. Mais je crois qu'au point où on en est, si on s'en sort, il faudra mettre la technologie à notre service.
Michel, ce sera la dernière, je pense.
Oui, c'est pas une question, d'ailleurs, parce que si je vous pose la question, ce serait une conférence, rien que pour répondre. Moi, c'est simplement pour signaler que ce qui m'a le plus, je vous l'ai dit hier, ce qui m'a le plus surpris dans votre dernier livre, et c'est intéressant que vous le sachiez, c'est que vous consacrez entre 40 et 50 pages à la Chine, et que vous considérez que la Chine a les clés de l'avenir de l'humanité. Si j'ai bien compris, le système chinois et le keynésisme en pratique. J'ai résumé en deux mots. Je vous incite à ne pas répondre parce que sinon.
Je vais quand même faire une remarque dans le sens de l'engagement laïque. C'est parce que la Chine n'a jamais eu dans ses représentations l'idée que l'homme et la femme avaient été créés à l'image de Dieu et qu'il ne fallait surtout pas y toucher.
Une toute dernière, je ne sais plus. Voilà, monsieur.
Il n'y a pas eu de dame. Parité. Maintenant, autant de questions par des dames que celles qui ont été posées par les mecs.
Alors, levez-vous, madame, si vous voulez bien, ce sera la dernière.
Pour la dernière chose sur l'intelligence artificielle, est-ce que la force de l'intelligence artificielle, c'est pas le fait qu'il n'y a pas de psychologie derrière, il n'y a pas de peur, parce que je crois que la peur, ça induit beaucoup de choses, même en économie. Donc la force de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle voit les choses noires, blanc, 1, 2, et voilà. Mais d'un autre côté aussi, je pense, on dit l'intelligence artificielle est plus intelligente que nous, mais je pense que derrière ce qu'on met, l'intelligence artificielle était créée quand même par des humains, et il y a toujours de l'humain à la base, enfin je pense.
Oui.
Donc il y a quand même le rôle de l'humain qui peut induire... C'est lui qui crée l'ordinateur.
Oui.
À la fois, ça travaille tout seul, mais...
Oui. Mais ça, ce sera bientôt terminé. Ce seront des ordinateurs qui créeront des ordinateurs, donc ne vous inquiétez pas pour cet aspect-là. Je vais répondre, et ça va me permettre de dire un tout petit peu plus sur mon expérience en intelligence artificielle. Quand moi j'ai travaillé dans 87 à 90 dans ce domaine-là, j'ai créé un logiciel qui a été appelé par un de mes collègues, c'est pas moi qui l'ai appelé comme ça, mais enfin c'était une très bonne idée de sa part, parce que c'était très descriptif. Il a appelé ça ANELLA, Associative Network with Emergent Logical and Learning Abilities, en français, réseau associatif avec à capacité émergente de logique et d'apprentissage. C'est-à-dire que c'était justement l'intelligence artificielle qu'on ne fait pas maintenant. Il était, parce que l'idée c'était la chose suivante, on nous avait dit ce sera un robot au bout du téléphone, les consommateurs, les usagers de British Telecom poseront des questions et on va aller très vite, la machine va répondre aux questions. Ce qu'on ne nous avait pas dit, qui n'a été dit plus tard quand le projet s'était terminé, c'était pas ça qu'on faisait. En fait, on était financé par le ministère de la Défense et c'était l'interaction qui aurait lieu entre un pilote de chasseur à réaction avec la machine autour de lui. Ce qui serait bien utile d'ailleurs dans les cas récemment d'accidents, s'il pouvait y avoir un dialogue carrément du pilote qui dise à la machine, mais qu'est-ce que tu fais exactement? Et on aurait expliqué. Et on n'aurait peut-être pas eu les deux accidents qu'on a eu récemment. Mais ce qui était central dans ma machine et qui faisait qu'il y avait des capacités émergentes de logique et d'apprentissage, c'est que je simulais une dynamique d'affect. Et vous pouvez trouver ça d'ailleurs dans mon livre, je ne sais pas s'il est là, celui-là qui s'appelle Principe des systèmes intelligents, qui a été publié donc en 89, à l'époque je faisais ça, et qui a été réédité. Et l'originalité du projet, c'était que ce qui faisait que la machine avait l'air intelligente, qu'elle avait l'air d'être logique, qu'elle avait l'air de vouloir apprendre, c'est parce qu'il y avait une logique d'affect qui était simulée, que la machine enregistrait si la réponse avait paru intéressante à l'utilisateur ou non, ce qui lui donnait envie de la redire la fois suivante, etc. Et en fait, simuler une dynamique d'affect de ce type-là, cet effet-là à l'intérieur du logiciel de manière banale, c'était un compteur qui disait voilà, plus de points si la personne a dit ah c'est très bien, et donc ou alors si la personne disait oui la réponse n'était pas pertinente, bon on rétrogradait, il y avait moins de points, et la fois suivante la machine ne répondait pas de cette manière. Ça n'a jamais été fait à ma connaissance. Il y a plein de gens à l'intelligence artificielle qui disent ah, il faudrait un jour remettre le sentiment de la machine, et ça, monsieur Minsky, etc., a dit oui, il faudrait que. Alors je lui ai envoyé un petit message, à l'époque c'était il y a une dizaine d'années, il n'a pas répondu, donc en fait, en réalité ça ne l'intéressait pas vraiment, ça faisait partie du discours autour. Le jour où on voudra le faire, on pourra le faire. Je lui ai dit bon, c'était dans mon projet, c'était écrit en GW basique, donc il faudrait écrire dans un autre langage, mais on pourrait reprendre l'idée.
Je propose qu'on clôture ici. Je vais prendre le
allez-y,
si vous permettez.
On va peut-être par derrière. Ah,
c'était loin s'en faut. Je voulais simplement vous dire que j'ai vu qu'il y avait encore pas mal de questions. Bien, je vous invite à essayer d'y trouver des réponses dans les livres qui sont là-bas. J'imagine que M. Jorion aura la gentillesse de faire des dédicaces si certains en souhaitent. Je m'avance un peu, mais peut-être est-ce le cas.
Mais à condition que la personne promette d'aller sur ma pétition pour la FP.
Là, vous vous arrangerez avec elle. Je vous invite à applaudir bien chaleureusement notre invité du jour. Merci pour ce généreux partage.